7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Notre travail est-il utile à la société, à notre entreprise ou bien à notre bonheur personnel? On s'interroge sur le sens que l'on donne à son métier aujourd'hui.
Travailler. J'attendais ça. Le maître mot, l'explication de tout.
Pourquoi voulez-vous cet emploi?
Je veux travailler.
Trop qualifié.
Parfait, exploitez-moi.
Oh, mais tu travailles trop.
Mes enfants, travaillez bien. Moi, je vais m'amuser.
Vous avez peut-être déjà entendu cet anglicisme « bullshit jobs », des métiers dits à la con, pardon pour la vulgarité, considérés comme inutiles, source d'ennui. Et même certains métiers reconnus d'utilité sociale peuvent être vidés de leur sens au quotidien. Paperasse de plus en plus chronophage, cadence infernale qui ne laisse plus la place au contact humain. Tout cela peut contribuer à dégrader notre relation au travail. Avec nous, pour en parler, Valérie Boussard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie du travail et enseignant-chercheur à l'Université de Nanterre. À vos côtés, Olivier Siran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, vous avez coécrit le livre « Boulot de merde » du cireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers. Un peu plus tard dans l'émission, nous serons en ligne avec l'économiste Nicolas Bouzou, qui s'intéresse aussi de très près à ces questions. Alors et vous, les voisins, les voisines, quel métier exercez-vous? Pensez-vous qu'il est utile à la société? Est-ce d'ailleurs une question que vous vous posez? Certains parmi vous évoquent des tâches ingrates ou des relations compliquées avec leur manager. Qui vous déplaît dans votre travail? Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour témoigner au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71 et nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Et on aime bien vous lire sur Facebook, les voisins. Steve est à Abengourou, en Côte d'Ivoire, je le lis. J'ai travaillé dans une société de coton de mon oncle, au Bénin, puis dans une société où je nettoyais les champs d'EVA. Je n'étais pas bien rémunérée et mes amis se moquaient de moi. Si on travaille, c'est pour pouvoir réussir dans la vie, donc il faut être pour moi bien rémunérée. Là, je n'arrivais même pas à subvenir à mes besoins, alors j'ai décidé de quitter ce genre de métier définitivement. Je vous lis aussi le message de Maki, à qui sont gagnés en RDC. Maki travaille dans les BTP, hein, bâtiments et travaux publics. J'aime bien mon job qui consiste à fabriquer les maisons des autres. Il y a aussi une solidarité entre collègues. Parfois, quand j'oublie le chantier, mes amis m'appellent pour me dire de venir et moi je fais pareil. En plus, j'ai beaucoup de temps libre pour faire d'autres choses. Important aussi le temps libre. Et Thierry nous écrit de Pointe-Noire. Moi, je suis commerçant et j'adore ce job, mais je n'aime pas être embêté chaque jour avec les impôts, les papiers. Cela nous rend la tâche beaucoup plus compliquée.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Il a le mérite d'avoir ouvert le débat, difficile de pas l'entendre sur le sujet. David Graeber est anthropologue américain. Il raconte comment il s'est penché sur cette question des bullshit jobs au micro de France Culture.
C'était véritablement une intuition. Je ne viens pas d'un milieu professionnel directement, mais je rencontre sans cesse des gens. Quand on leur pose la question « Que faites-vous ?», ils vont dire « rien, vraiment, sérieusement. » Au début, je pensais qu'ils étaient simplement modestes, humbles, mais quand on leur donne un petit peu à boire, ils admettent finalement qu'ils ne font véritablement rien. Peut-être qu'ils travaillent une heure par semaine, et puis le reste du temps, ils font semblant de travailler. Les gens ne sont pas idiots. S'ils font quelque chose qui n'a aucun sens, ils le comprennent. Et s'il y a une façon que leur travail est utile aux gens, ils vont comprendre aussi. Donc il faut croire les gens, il faut leur faire confiance. Quand je regarde des enquêtes qui me disent qu'entre 37 et 40% de gens pensent que leur travail est absurde et que si leur emploi disparaissait, ça ne ferait aucune différence, mais moi, ça a été très surprenant pour moi, les résultats de cette enquête.
Une des choses qui m'ont le plus impressionné en récupérant tous ces témoignages, c'est à quel point les gens étaient malheureux. Parce qu'on pourrait penser que, bon, c'est pas si mauvais que ça. Imaginez, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Et vous recevez de l'argent,
et beaucoup de respect, et vous n'avez rien à faire. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement malheureux? Vous avez quelque chose pour rien, c'est parce que les gens aimeraient bien avoir, non? Quelque chose pour rien? Mais en fait, les gens me disent qu'ils sont déprimés, ils sont anxieux, ils sont malades, des maladies psychosomatiques, qui prennent leur corps et qui disparaissent à partir de l'instant où on leur donne quelque chose de vrai à faire. Et ça montre quelque chose de profond sur la nature humaine. Les gens ne sont pas ces machines maximisées dont on peut tirer le plus possible en payant le moins possible. Ils veulent avoir un effet sur le monde qui les entoure. Si on enlève cela, à ce moment-là, ils s'étiolent et meurent.
Alors l'enquête à laquelle fait référence David Graeber, c'est une enquête menée en Grande-Bretagne en 2013. Alors vous, Olivier Siran, vous avez pris le parti d'étendre cette notion de métier à la con, qui peut être assez subjective et peut-être ne recouvre pas non plus l'ampleur du phénomène auquel nous assistons. Pourquoi étendre cette définition-là ?
Ben, il nous semblait que la définition donnée par David Graeber du bullshit job, aussi stimulante soit-elle, aussi intéressante fut-elle pour notre enquête, dans la mesure où justement il met en avant la question de l'utilité sociale, qui dans le cas des métiers décrits par David Graeber se réduit à zéro. Ce qui nous a posé problème, c'est d'une part qu'il réduit la question de l'inutilité sociale au périmètre, on va dire, des tâches de la technostructure capitaliste, de la bureaucratie d'entreprise, qui sont des tâches à la fois valorisées socialement par la rémunération, mais qui sont en même temps affectées par la perte de sens, où les gens s'ennuient au boulot, passent leur temps à pianoter sur Facebook. Ça nous paraissait un périmètre un petit peu partiel et partial de la problématique d'ensemble de la souffrance au travail et de la dégradation générale du sens et aussi des conditions dans lesquelles le travail se fait. Et puis d'autre part, ce qui nous embêtait un peu, on en a parlé d'ailleurs avec David Graeber lui-même, puisqu'on est allé avec mon collègue et camarade Julien Brigaud, on est allé le rencontrer, David Graeber, à Londres, et en fait, la définition qu'il donne du bullshit job est très psychologisante, c'est-à-dire que le bullshit job se définit par la capacité de celui qui l'exerce à nommer le mal.
C'est la
perception qu'ils en ont. Donc, à partir de cette définition-là, quelqu'un qui ferait un bullshit job ou un boulot dégradé, sans sens, voire nocif à la collectivité, ne serait pas affecté tout simplement parce qu'il parvient à valoriser sa tâche. Or, nous sommes tous plus ou moins conditionnés à donner du sens à ce qu'on fait, même quand ce qu'on fait pose en réalité un gros problème à la collectivité.
Alors justement, certains peuvent vivre une réelle prise de conscience sur leur travail. C'est ce qui est arrivé à Ariane Dubois, la trentaine. Elle vit à Paris. Elle a écrit un livre, Pétage de plomb, chez François 1er. Elle est aussi journaliste pour France Télévisions, spécialisée des sujets historiques. Mais ça, c'est sa deuxième vie. La première, elle la raconte au micro d'Alice Milo.
Après mon école de commerce, je suis allée travailler dans la mode. J'ai commencé comme assistante, et puis petit à petit, acheteuse, chef de produit, j'ai fini directrice de collection. Ça, c'est l'apothéose, c'est le pompon, hein. C'est-à-dire que c'est génial, vous maîtrisez toute la chaîne, vous avez sous vous 15, 20, 30 personnes, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez taper des durites, virer des gens, ce qui se fait beaucoup dans la mode, voilà, vous êtes un peu la personne clé et en même temps un poste qui est névrotique. Beaucoup de responsabilités, on doit faire des défilés, on est responsable des défilés, ça marche. Tant mieux, on vous applaudit, vous prenez une cuite en champagne et c'est génial, ça marche pas, vous êtes dégagé. Énorme pression qui tourne autour d'un collier de perles. Voilà, ça c'est la réalité du métier. Je me suis accrochée, je me suis battue, j'ai donné ma vie pour ça. C'est-à-dire que, à part dormir et respirer, tout le reste de mon temps était consacré à ça, à la mode. Dans la mode, on tient beaucoup grâce à l'alcool et à la drogue. Aux paillettes hein, aussi, se shooter aux paillettes, ça veut dire que vous mettez des fringues d'à peu près 10 000 dollars sur le cul et ça vous fait comme un trait de coke. Ça vous maintient dans un état d'excitation fébrile et en même temps de conditionnement pour continuer. Jusqu'au jour où j'ai eu une réunion, elle a duré 3 heures, il était à peu près 21 heures, c'est-à-dire que ça faisait 3 heures qu'on se prenait la tête il y a à peu près 10 personnes dans cette réunion, sur une couleur. Sur la couleur rose d'une jupe culotte qui doit figurer dans 2-3 jours sur le défilé qu'on prépare. Et pendant 3 heures, on se prend la tête sur plutôt rose comme ci, rose comme ça. Le débat devient mais fou. Et là, je lâche. Il y a tout qui lâche. C'est-à-dire le mental lâche. J'arrête de penser, j'arrête de me battre, j'arrête d'être la directrice de collection un peu pétasse, autoritaire et hyper speed. Et je me rends compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que tout cela n'a aucun sens. Et là, je comprends le vide intersidéral de ce que je fais, quoi. À quoi ça sert de vendre des wagons de jupes culottes à des Chinois, des Japonais, des Américains? Mais je vous le demande. Il n'y avait pas de sens. Et donc, il y avait du stress. Je mets mon manteau, je me barre dans la rue, je vais à mon appartement, je me change, ne demandez pas pourquoi, peut-être parce que il fallait que j'enlève toutes ces fringues, ces paillettes, ces talons de 15 qui pour moi étaient devenus un truc insupportable. Je prends un train Gare Montparnasse, je me retrouve 2 heures plus tard chez ma grand-mère, Mamie Pierrette, en Poitou-Charentes. Voilà. Et tout ce que je me souviens d'ensuite, c'est être dans un lit. Et dans ce lit, je suis restée 6 mois. Dans nos sociétés occidentales, à partir du moment où vous avez un travail, où vous crevez pas de faim, parce que tous les jours, on voit des SDF dans la rue, on n'a pas le droit de se plaindre si on n'est pas dans cet état-là. Et qui plus est, si vous avez en plus un bon poste, des bonnes études, un bon revenu, un bel appart, non mais juste ta gueule et sois heureuse, quoi, dis merci. Pendant 30 ans, on m'a conditionné, pas seulement l'école, mes parents, c'est génial, faut avoir de l'argent, faut avoir un poste, faut briller, faut être quelqu'un de bien, faut se dédier au boulot, sinon on est des feignons, on est des ratés. Et ça, ça j'y ai cru, je veux dire. Sinon, j'aurais pas fait tout ça.
Et qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui ?
2 choses. D'être libre et d'avoir du temps. Par exemple, aujourd'hui, je fais un métier que j'aime, je suis journaliste, donc je travaille pour la télé, c'est extrêmement... prenant, il y a des deadlines qui sont comme dans la mode, c'est beaucoup d'heures, mais il n'y a pas de stress, parce que ça fait du sens, parce que je suis journaliste pour l'histoire, j'aime ça, je veux dire, le mec qui se bat pour sauver des animaux, pour l'écologie, il y a de la pression, il y a du travail, il y a de la sueur, mais il n'y a pas un stress comme ça. Le stress, c'est cette tension qui existe entre ce que vous faites et vos valeurs. Et à un moment donné, cette tension induit tellement de stress qu'elle vous pète à la gueule, quoi. À partir du moment où tu te poses la question de pourquoi tu fais les choses, je pense que si tout le monde se posait cette question, il n'y aurait plus de gens qui feraient des boulots vides de sens, des boulots qui ne servent à rien. Ce qu'on appelle les bullshit jobs, quoi. Des boulots qui ne servent pas à grand-chose.
7 milliards de voisins. C'est sur RFI.
Que vous inspire ce témoignage ?
C'est un témoignage extrêmement riche. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de dimensions de ce qui fait le rapport au travail, les difficultés du rapport au travail dans ce témoignage. Je vais partir de cette idée de sens, hein, qui revient régulièrement. Elle nous dit je me rends compte que mon travail n'a pas de sens. Alors, la première réflexion, c'est que cette question du sens du travail... Et ça me semble être quand même une question très contemporaine. C'est peut-être aussi dans les sociétés où on a du travail, qu'on devient de plus en plus difficile sur ce travail.
On peut se permettre ce questionnement.
On peut se permettre d'interroger la finalité de son travail, le rapport entre son travail et ses valeurs personnelles, etc. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que ce sens, elle semble le rapporter à un point de vue assez personnel, assez subjectif. C'est elle par rapport à son travail. Alors comme je suis sociologue, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai tendance à plutôt rapporter les phénomènes à des phénomènes sociaux, à la société, à des groupes.
C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Voilà. Et il me semble que ce qu'elle nous raconte, alors ce qui lui arrive, c'est quelque chose... finalement, enfin, à la fois rare mais très fréquent. C'est-à-dire que dans chaque métier, chaque profession, on entend parler de ces personnes qui, à un moment donné, comme elle dit, pètent les plombs. C'est-à-dire quittent la profession. Ça va du curé défroqué au trader qui finit par devenir paysan, enfin, etc. Donc chaque profession, on retrouve ça. Et en fait, ça me paraît être l'exact inverse de ce qu'on appelle l'entrée en profession. Quand on rentre dans une profession, on dit qu'on passe derrière le miroir. C'est-à-dire que tout d'un coup, on devient ce professionnel, on intègre l'ensemble des valeurs du rapport au travail qui est construit par la profession. Et on arrive à tenir, et c'est ce qu'elle nous dit sur la mode. Tenir par l'alcool, les paillettes, la gloire, c'est la culture professionnelle de la mode. Donc à un moment donné, elle y rentre, elle l'accepte, et puis il y a un moment donné où tout d'un coup, ça c'est plus suffisant, ça craque. Alors on va pas parler d'elle, mais il y a des tas de situations comme ça où, à un moment donné, on a un retour, on repasse derrière le miroir, pour certainement des tas de raisons personnelles liées à l'histoire aussi. Peut-être Mamie Pierrette, qui l'a pas tout à fait préparée à être dans ce monde de la mode.
Olivier Siron.
Oui, nous, au cours de l'enquête qu'on a faite avec Julien Brigaud, on a évidemment recueilli pas mal de témoignages aussi de personnes qui ont eu ces prises de conscience à un moment donné, qui se sont rendues compte que ce qu'elles faisaient était absurde, aussi bien individuellement que socialement. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons ensuite voulu étendre le sujet et puis laisser de côté ces dénominations un peu gentiment habillées qu'est le bullshit job pour parler appeler un chat et parler de boulot de merde. C'est qu'il y a un certain nombre de personnes, en fait un très grand nombre de personnes, qui travaillent dans des secteurs où de toute évidence ce qu'elles font n'a pas de sens et de toute façon exercer dans des conditions salariales et dans des conditions de précarité telles que c'est de toute façon une souffrance. Simplement, il n'y a pas de elles n'ont pas le choix. Ce sont des personnes qui doivent travailler pour gagner leur vie. Je pense notamment à toutes celles qui travaillent dans l'industrie des services, rien que l'industrie des services aux entreprises, c'est 1 200 000 emplois en France, le télémarketing, les gens qui vous appellent à l'heure de la sieste pour essayer de vous fourguer une cuisine ou un canapé, ce sont des gens qui savent que ce qu'elles font n'a pas de sens, mais simplement elles peuvent pas s'en libérer. Et donc il faut aussi tenir compte de l'organisation de la société qui fait que ces activités-là existent et que beaucoup de gens n'ont pas d'autre choix que de devoir s'y soumettre.
Valérie Boussard.
Oui, je pense que ce qui est très important, vous le dites et on l'entend dans l'interview d'Ariane, c'est la question des conditions de travail. Elle nous parle de stress, elle nous parle à un moment de quelque chose qui devient intenable. Et alors ça, ce sentiment que le travail perd son sens, on l'entend effectivement beaucoup dans toutes les activités qui sont aujourd'hui dégradées. Dégradées, non pas parce que l'activité en elle-même n'a pas de sens. Vendre des cuisines, ça peut avoir un sens. On va équiper une ménagère d'une belle cuisine. Après tout, elle sera peut-être très contente.
Parce que certaines tâches à l'intérieur de ces métiers-là n'ont plus de sens.
N'ont plus de sens, ou parce qu'il faut tout d'un coup faire l'activité avec une cadence très précise, en respectant un script, en donnant des arguments qui sont en fait construits contre ou qui vont contre la définition du métier et de l'activité telle qu'elle est conçue par les travailleurs eux-mêmes. Voilà. Et c'est ça qu'on voit surtout beaucoup aujourd'hui, c'est cette rencontre, ce conflit entre la définition du métier par le haut, imposée par la direction, et la définition du métier par le bas.
Et c'est la raison pour laquelle il est important aussi à un moment donné de s'abstraire de la dimension psychologique ou du ressenti des gens, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent faire un boulot qui est nocif à la collectivité, je sais pas moi, le conseiller en optimisation fiscale dont le travail consiste à priver la collectivité d'une partie de la collecte des impôts. Il n'est pas très compliqué de concevoir que ce sont des métiers qui font du tort à la société, mais ceux qui l'exercent peuvent trouver ça tout à fait épanouissant, euphorisant, formidable. C'est pas pour autant une raison de ne pas de s'intéresser à ces activités. Et heureusement, nous, dans notre enquête, on est tombé à un moment donné sur une étude qui nous a fourni quelques éléments pour apprécier de manière un peu plus objective la configuration du monde du travail aujourd'hui. C'est une étude de la New Economic Foundation qui se propose d'évaluer l'utilité sociale de telle ou telle tâche. Alors, par exemple, ils ont calculé que une employée de crèche, pour chaque euro gagnée dans son petit salaire, en fait, rétrocède à la collectivité 10 euros de valeur sociale à travers voilà, les services qu'elle rend. Donc logiquement, si le travail
peut mesurer cette utilité sociale.
Si la rémunération était corrélée à la valeur sociale de l'activité, en fait, l'employé de crèche devrait être payé 10 fois plus. À l'inverse, le publicitaire, par exemple, dont on peut dire qu'il contribue à la consommation, donc qu'il nourrit l'activité économique. En même temps, il crée aussi de la surconsommation, de la dette, il crée de l'obésité, de l'enlaidissement des paysages et du ramollissement de nos cerveaux. Paramètres qui sont évidemment difficiles à évaluer, n'empêche que dans cette étude, ils ont évalué que le publicitaire faisait perdre 12 euros à la société pour chaque euro gagné. Donc si le publicitaire était payé 12 fois moins que ce qu'il gagne aujourd'hui, peut-être qu'on considérerait plus facilement son boulot comme étant un boulot de merde et peut-être serait-il tenté de s'en choisir un autre.
Les voisins, les voisines, quelle contribution votre travail vous semble apporter à la société? Quelle importance cette question revêt pour vous? Avez-vous le sentiment que votre métier a aussi perdu de son sens avec de nouvelles tâches à gérer? On attend vos témoignages, n'attendez plus au 33 1 84 22 71 et on va accueillir un voisin tout de suite.
Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. Ça te calmerait.
Bonjour Serge. Serge, vous avez 35 ans, vous êtes à Yaoundé. On vous écoute.
Oui, madame, permettez-moi tout d'abord de dire bonjour à votre magnifique équipe et surtout à la sympathique figurine du Standard.
On lui passera les remerciements. Alors Serge, est-ce que vous, quel travail vous faites déjà et puis est-ce que vous aimez votre travail?
Bon, moi personnellement, je suis gérant de station. Je suis gérant de station-service et je ne vais pas vous mentir, je déteste mon travail, je ne l'ai jamais aimé. Donc, à la base, je suis juriste de formation. Je termine en fac avec un bac plus 4. Je finis avec un master 1 en droit des affaires. Bon, malheureusement, avec les difficultés de la vie au Cameroun, je n'arrive pas à aller plus loin. Et je commence à me lancer à la recherche d'un boulot et je deviens pompiste. Je deviens pompiste avec un bac plus 4. Bon, j'ai fait mon petit chemin dans la maison. Aujourd'hui, je me retrouve gérant de station. Bon, malgré cela, c'est pas vraiment ça, puisque je suis certes juriste de formation, mais écrivain par passion. Je suis un autodidacte. J'aurais bien voulu faire carrière dans la littérature. Bon, je ne perds pas espoir un jour de trouver un éditeur. Bon, en attendant, puisque nous sommes dans un contexte camerounais où on fait avec ce qu'on a, bon, je me suis contenté du peu que j'avais. Et du coup, je gagne ma vie comme gérant de station. Et je touche un peu plus de 140, 145 euros par mois. Et c'est un boulot purement alimentaire, donc je m'en contente du moment où ça me permet de joindre les deux bouts avec ma petite famille, la maman qui est malade et tout. Donc je m'en contente. Comme dit l'adage, à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Et moi, je peux même m'estimer heureux, puisque autour de moi, avec même certains camarades de fac avec qui j'ai cheminé, il y en a aujourd'hui qui sont toujours dans la précarité, dans le chômage. Donc malgré le fait que je n'aime pas mon travail, je m'estime heureux de l'avoir et je dis merci à Dieu. Voilà.
Et pour vous, c'est une transition peut-être vers autre chose, ce travail-là?
Oui, oui. À vrai dire, quand je le prends, c'est en espérant trouver autre chose. Mais voyez-vous, au Cameroun, c'est pas toujours quelque chose de facile. Nous sommes dans un système où aujourd'hui, la relation personnelle vaut mieux même que le diplôme. Donc ça veut dire que c'est très, très. Il y a bien sûr des exceptions, mais c'est très difficile de trouver un boulot quelque part. Si on n'a pas quelqu'un qui nous tient par la main, malgré toutes les qualifications professionnelles ou académiques qu'on peut avoir. Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup Serge pour ce témoignage. On va accueillir tout de suite un autre voisin, Eric, au Cameroun également. Lui est à Douala. Bonjour Eric.
Bonjour.
On vous écoute. Vous êtes téléconseiller.
Oui, exactement. Mais à la base, je suis également juriste de formation. Alors, dans ma recherche d'emploi, je me suis retrouvé en train d'exercer dans la télécommunication en qualité de téléconseiller. Alors, mon boulot, je le trouve utile vis-à-vis de moi, premièrement, et vis-à-vis des consommateurs.
Vis-à-vis de vous, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, c'est ça?
Plus important que l'argent, il y a certaines valeurs. que ce boulot m'a fait découvrir, notamment la maîtrise en soi. La maîtrise en soi, il est important de garder un certain calme, une certaine attitude pour pouvoir enseigner les clients qu'on reçoit. Ensuite, il faut faire preuve d'une excellente moralité pour pouvoir mener à bien cette tâche. Et la concentration maximale doit être au rendez-vous, car la moindre erreur peut être fatale. Et enfin, il s'agit pour moi ici de la reconnaissance témoignée par certains clients. Parce que pour moi, c'est très important qu'un client me dise « Merci monsieur pour cette solution que vous m'avez apportée » ou encore « Merci monsieur pour cette information ». Ça me touche énormément et c'est très important pour moi.
C'est une reconnaissance dont vous avez besoin, qui vous fait plaisir.
Oh, oui, oui, plus. Oui, oui, oui.
Et combien de clients est-ce que vous avez par jour à gérer ?
Alors, il s'agit de satisfaire en moyenne 300 clients énervés par jour.
Ah, énervés, carrément.
Oui, oui, oui. Je t'ai apporté cette précision. Donc, il faut renseigner 300 clients énervés qui ont des difficultés avec tel ou tel service, qui ne sont pas satisfaits de telles conditions d'utilisation d'un service ou encore qui ne comprennent pas certaines choses. Donc, je ne vous apprends rien. Vous également, vous êtes consommatrice de certains produits là où vous vivez et vous seul savez ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes mécontent d'une entreprise et de son produit en particulier.
Et quels sont vos horaires, Eric ?
Alors, les horaires sont assez compliqués car il s'agit d'un service de car. Alors, il y a les tranches d'horaires qui concernent la matinée, 6h, 15h, et l'après-midi, 15h, 23h.
Oui, c'est des grosses tranches horaires.
Difficulté ? Voilà. La difficulté ici s'effectue au moment où, lorsque vous finissez dans l'après-midi, lorsque vous travaillez dans la tranche d'horaire de l'après-midi, vous finissez à 23h et que vous devez reprendre le lendemain matin. Donc ça pose un énorme souci en termes de temps de repos, car vous ne pouvez pas être efficace si vous n'êtes pas assez reposé. Vous allez traduire votre mauvaise humeur au client et cela peut être fatal pour vous.
Et malgré tout cela, Eric, vous dites que vous aimez votre travail.
Oh oui, oui, oui. Donc, je ne vais pas me plaindre puisqu'en signant le contrat, je savais exactement où j'allais. Et pour moi, plus que le salaire, c'est important.
Ce lien aussi avec les clients dont vous nous avez parlé. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez réagir, Valérie Boussard ?
Oui, alors, merci à Serge et à Eric pour leur témoignage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cas contrastés, puisqu'ils ont tous les deux une formation de juriste et ils exercent une activité qui n'a rien à voir avec le droit. Et dans un cas, on entend plutôt une insatisfaction et dans l'autre, une satisfaction.
Donc on revient à cette subjectivité.
Ouais, ouais. Alors, il est vrai que le décalage entre les attentes, et notamment les attentes liées à une formation qui prépare à un métier, et le métier qu'on exerce réellement, crée en général ces insatisfactions. Mais dans le cas d'Éric, peut-être que ce qui l'amène à aimer son travail, c'est... Enfin, je fais l'hypothèse qu'il travaille quand même dans un collectif. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul dans sa station. Il est dans un collectif de téléconseillers. Il a aussi des managers qui l'encadrent et qui en permanence lui répètent quelles sont les règles du métier, qu'est-ce que c'est qu'être un bon téléconseiller, comment on peut s'épanouir. Donc, d'une certaine façon, il y a tout un discours qui l'aide aussi à tenir. À tenir dans ce métier. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il a des conditions de travail qui sont difficiles, mais qui ne l'empêchent, visiblement, qui ne l'empêchent pas de satisfaire le client. Alors qu'on entend souvent, nous, dans ces témoignages de téléconseillers ou d'autres activités, des personnes qui nous disent « On me demande à la fois de satisfaire le client et en même temps, je n'ai pas le temps de le faire parce que je dois prendre trop d'appels. Là, j'ai 300 clients. » Une incapacité, énervé, voilà, une incapacité. Et donc, c'est souvent dans ces situations qu'on entend des témoignages vraiment d'insatisfaction. C'est le métier me plaît, mais je ne peux pas les réaliser.
Quand on ne demande pas aux employés carrément de piéger le client.
Oui.
Alors, je ne sais pas si la société pour laquelle travaille Eric est une société camerounaise ou si c'est une société européenne ou française délocalisée au Cameroun, parce qu'il faut savoir aussi que le télémarketing est un secteur qui délocalise énormément, et notamment vers l'Afrique. Et c'est un secteur qui, rien qu'en France, pèse quand même 300 000 emplois, plus tous ceux qui ont été délocalisés en Afrique et en Afrique du Nord et en Afrique centrale, et où règnent des méthodes managériales qui sont totalement hallucinantes. Par exemple, il y a un site de télémarketing à Blagnac, près de Toulouse, où il y a deux ans, l'opérateur numéricable a mis au point un logiciel pour contrôler les pauses pipi des employés, c'est-à-dire que les 200 salariés du site devaient, chaque fois qu'ils devaient se rendre aux toilettes, préalablement adresser une demande écrite par un
pointer,
une appli, voilà, exactement, et adresser d'abord une demande auprès de leur supérieur et attendre que cette demande soit éventuellement agréée, voire ou refusée. Voilà le type de fonctionnement qui sont mis en place et qui transforme ces boulots-là en boulot infernaux, en réalité. Mmh. Alors, quand ça se conjugue, en plus, avec le sentiment de faire quelque chose qui n'a pas de sens ou qui ne vise finalement qu'à emmerder les gens, il faudrait vraiment se questionner sur l'urgence de libérer les gens du fardeau qu'on leur fait subir. Et de leur permettre d'exercer des activités librement choisies et un peu plus utiles à eux-mêmes et à l'environnement.
Alors les voisins, les voisines, vous continuez à nous appeler si vous avez envie de participer. Pensez-vous que votre travail est utile à la société et suffisamment valorisé? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et quelles que soient les questions que vous vous posez sur votre travail, il faut quand même le réaliser jour après jour. Work Every Day, c'est signé Brother Ali et c'est tout de suite sur RFI. God, it's gotta be more to life than this. It's gotta be a bigger reason that I exist. Work to eat, to earn my keep and ensure somewhere to sleep and spend the weekend buying shit. Don't need economists to know I need a pot to piss. Follow politics, man, I ain't got no time to think. What I got to set aside for my retirement? Cop a double shift, pay somebody to watch the kids. Sick of all this, but can't take an off day. Doctor's office, I can't swing the copay. Trapped in a network, lucky just to get work. They celebrate every week, nobody gets heard. Greed can never leave well enough alone. They keep on squeezing till we bleed from every bone. And we'll strive hard and stress about the rent. Probably still die poor and in debt without a cent. But I guess I'll carry my ass down to the county and see what they talking about. But you know they treat you like you shot somebody just cause you need a little help. You're telling me you ain't never been down on your luck. Never tried to make the man's meet, but just got stuck. Never slaved at a gig like a bum with a cup. Had it all your pennies up, and you still ain't had enough. Huh. And them jobs full up, they ain't hiring. I'm barely surviving, not enough to get by with. Hunger is a constant problem. Stomach steady growling. People getting shot in my environment. Study, go to college, it's what them people hollering. Too many roadblocks in the way, it's not an option. To say that it's impossible, I would be lying. You ain't got a chance if you're not up in that top 10. A couple got a scholarship, but I am not them. Ain't got the skills to pay the bills, so my pockets are thin. So until I cop a gig and my hardship ends, finna line myself up at your welfare office again. I expect to be accepted as the man that I am. Respectfully and appreciatively, man. God damn, damn, damn. You must be out your mind. Do you see this tea party stuff, man? People look broke, they damn self. Are you serious? People stressing, here's the question. How to give people drinking tea in the recession? It's deception, how absurd is this? How are so many poor people conservative? 7 milliards de voisins, quel sens donner à son travail aujourd'hui et comment bien vivre au quotidien? On s'interroge sur ces questions avec nos deux invités, Olivier Siron, journaliste indépendant, qui a coécrit le livre « Boulot de merde, du cireur au trader » et Valérie Boussard, professeure de sociologie du travail, enseignant-chercheur à l'Université de Nanterre. Alors je vous
propose tout de suite d'écouter le témoignage anonyme d'une factrice. En région parisienne, elle déplore l'évolution de son métier.
Il est ennuyant, c'est tout le temps les mêmes choses, c'est répétitif. Je vais juste pour distribuer le courrier, c'est tout. Juste par obligation, parce qu'il faut avoir un salaire, mais sans plus. Alors moi, j'ai à peu près parfois 200 à 300 plis par jour en lettres. 2 minutes par immeuble pour pouvoir trier le courrier dans les boîtes aux lettres. Donc il faut qu'on fasse très vite. On a l'impression d'être dans une usine en fait. On arrive, on récupère notre courrier, on s'en va en distribution, on revient.
Et à quoi vous pensez pendant ces journées où vous faites tous les jours la même chose, où vous distribuez du courrier?
Je pense pas en fait. Maintenant, j'ai l'impression d'être un robot. Je suis vraiment automatisée, je vais au numéro 175, je distribue au 175 et je m'en vais. Avant, ça me stressait en fait cette situation. J'avais l'impression de perdre mon temps et donc pour pouvoir oublier tout ça, je me suis mise à écouter de la musique et les journées elles, se déroulent et je ne me rends pas compte. Parce que sinon, on ne peut plus tenir en fait.
Olivier Siran, on assisterait, vous l'écrivez, à une tendance lourde au délabrement des métiers à forte valeur sociale.
Le témoignage qu'on vient d'entendre est symptomatique de ça. Oui, en effet, dans le métier de postier, par exemple, c'est le type même de boulot que tout le monde identifiait à une tâche bienfaisante pour la collectivité. Le boulot de facteur, de factrice, c'est quelque chose d'éminemment utile. Or, les conditions dans lesquelles il et elles exercent leur métier font que ça devient un enfer et que beaucoup pètent les plombs, n'en peuvent plus. Mais pas parce que ça se dégraderait par phénomène de pourrissement naturel, mais parce qu'il y a des méthodes qui sont mises en place pour délibérément broyer, merdifier le travail qui est fait. Mmh. De sorte que les personnes qui l'exercent n'éprouvent plus aucun sens à le faire et se trouvent en situation de souffrance aggravé par le fait que les conditions de travail sont de plus en plus précaires, de nombre de postiers ne sont plus des titulaires mais sont des précaires, des intérimaires, etc. Ils sont de plus en plus isolés les uns des autres, donc l'idée même de collectif de travail disparaît, les tournées, la durée
des solidarités des tournées qui permettaient de tenir autrefois,
absolument,
en fait, plus.
Absolument, tout à fait. Et puis on leur fait bien comprendre que maintenant, distribuer du courrier, ça c'était avant, que maintenant il va falloir rendre des services rémunérés. Donc les clients, les usagers sont désormais des clients qui doivent payer pour des services que les facteurs doivent leur rendre, mais qu'ils n'ont plus le droit de rendre gratuitement, librement, comme ils le faisaient avant. Donc ça devient totalement délirant et les facteurs n'en peuvent plus.
Alors nous sommes en ligne tout de suite avec Nicolas Bouzou. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez coécrit le livre La comédie inhumaine, dans lequel vous revenez sur des techniques managériales innovantes qui évoquent parfois un peu le théâtre de l'absurde, hein, vous l'écrivez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, alors déjà, ce livre, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai coécrit avec jeune philosophe extrêmement brillante qui s'appelle Julia de Funès. Et en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une démotivation croissante dans les entreprises, il y a un désengagement croissant des salariés qui est mesuré par des enquêtes. Il y a des problèmes de management. On voit bien que entre 80 et 85% des salariés n'ont pas confiance dans leur manager. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui dans les entreprises, problème d'organisation et problème de management. Les entreprises ont identifié le fait qu'il y avait un problème, mais elles y répondent de façon un peu anecdotique, en important notamment des modes managériels comme le management par le jeu, comme le bonheur au travail.
Avec un poste, par exemple, de Chief Happiness Officer.
Oui, là, on touche au ridicule, ça c'est une importation américaine qui est à côté du sujet, parce que en réalité, ce que demandent les gens, c'est du sens et de l'autonomie. Ils veulent travailler. C'est ça qui nous a frappé quand on a fait notre enquête et puis surtout les très nombreux témoignages qu'on reçoit depuis l'apparition des livres, c'est que les gens nous disent « mais nous, on voudrait travailler plus ». Simplement, dans notre entreprise, eh bien, l'accumulation de process, de réunions, de formations inutiles, de séminaires inutiles, nous empêche de travailler comme nous, on voudrait travailler. Et c'est pour ça que pour Julia de Funès et moi, la question de l'autonomie, elle est véritablement au cœur. Il faut vraiment que les entreprises aient davantage confiance dans leurs collaborateurs. Quand on choisit de travailler avec un collaborateur, c'est qu'on a confiance en lui. Si on n'a pas confiance, on ne doit pas travailler avec lui. Si on a confiance, on doit aller au bout de cette confiance.
Et quelle solution, alors, justement, pour donner plus d'autonomie?
Alors nous, on a proposé des solutions concrètes, parce qu'on n'a pas voulu appeler à une révolution culturelle ou à ce genre de choses, parce que c'est des grands mots, mais ça ne marche jamais, c'est pas concret. Donc on a proposé 15 solutions concrètes, je vais vous en citer 3. Première solution, entre 1 et 2 jours de télétravail par semaine, alors pour les professions auxquelles ça se prête, bien évidemment, mais le télétravail, c'est très important, c'est très intéressant, parce que c'est l'obligation mutuelle de se faire confiance. Deuxième chose, diminution drastique du nombre de réunions, parce qu'il y a une inflation de réunions, alors pas seulement en France hein, d'ailleurs, mais dans les pays anglo-saxons aussi, on voit ça, qui se traduit par plus de process, par plus de contraintes, les gens, ça les intéresse pas, ils perdent leur temps, ils s'agacent, etc. Donc il faut réduire drastiquement le nombre de réunions. Donc nous, on propose un truc tout simple, hein, c'est l'interdiction des réunions l'après-midi. Et puis, et là, on s'adresse plutôt à une population de cadres, suppression des PowerPoint, parce que les présentations PowerPoint avec 150 slides, donc le premier c'est bonjour, le dernier au revoir, et qu'on impose à des salariés qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à faire, c'est pas possible. Donc nous on pense, si vous voulez, qu'il faut partir vraiment de choses concrètes, parce que quand on parle de changer le système, de changer la culture, c'est intéressant, c'est sympa, mais ça n'aboutit à rien, ça ne donne rien. Or là, vous avez un très grand nombre de salariés qui n'en peuvent plus.
Donner plus d'autonomie, hein, notamment aussi par le télétravail, le travail à distance de chez soi. Merci, merci beaucoup Nicolas Bouzou. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous avez coécrit le livre La comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
Alors on va accueillir un voisin tout de suite, Joseph en RDC. Bonjour Joseph.
Bonjour, je vous suis très bien.
On vous écoute, Joseph. Vous êtes professeur et vous avez 24 ans.
Ah oui, bien sûr.
Alors, on vous écoute pour votre témoignage. Comment vous vivez votre métier au quotidien, Joseph?
Voilà, ouais. Comme je l'ai dit, Bazet, oui.
On vous
comme
écoute.
Je l'ai dit, Bazet, mais ça, le métier vraiment est très désastreux.
Désastreux, parce qu'il est mal payé, c'est ça?
Oui, parce qu'il est mal payé. Si vous vous comparez aux analphabètes qui n'ont jamais été sur le bas et qui font le commerce, par exemple, vous trouvez que vous avez perdu beaucoup de temps en étudiant au lieu qu'on devrait faire le commerce.
Et vous voulez arrêter ce métier-là, changer de voie?
Ah oui, bien sûr, je voudrais arrêter, changer et puis aller faire encore l'étude peut-être. Dans un métier qui est considéré chez nous.
Par exemple, vers quel type de métier vous aimeriez vous orienter?
Par exemple, tous les métiers qui sont techniques, comme l'informatique et puis d'autres.
Merci, merci beaucoup Joseph pour ce témoignage. Valérie Boussard, on en vient aussi à une question qui est celle de l'utilité sociale. On a évoqué de nombreux métiers qui sont considérés unanimement comme utiles. On n'a pas aussi parlé des infirmières, hein, du personnel de santé qui se mobilisent en ce moment, notamment en France, pour dénoncer leurs conditions de travail. Comment on peut déterminer qu'un métier a une utilité sociale?
Je souris parce que c'est à la fois éminemment difficile. Pourquoi? Parce que c'est éminemment relatif. Et je pense que la question de l'utilité renvoie à la question de la valeur. À quoi accorde-t-on de la valeur? Et il me semble qu'il n'y a pas des valeurs en soi, il y a des valeurs qui sont relatives. Par exemple, sur cette question des métiers d'enseignant, je pensais que...
Qui est considéré comme un métier utile. Hein.
Oui, a priori, utile. A priori. Et en même temps, il n'a pas la même valeur dans le temps. On sait très bien qu'au début fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les enseignants en France étaient extrêmement considérés, les hussards noirs de la République, et que même si il semblerait que le métier ait gardé la même utilité sociale, il n'a pas la même valeur aujourd'hui aux yeux de la société, qu'il ne rémunère pas de la même façon, qu'il ne le considère pas de la même façon. C'est peut-être un peu ce que nous disait Joseph. On voit aussi comment... différentes sociétés, les valeurs, la considération accordée peut être différente. Je pensais à une différence entre les États-Unis et l'Europe, où par exemple, historiquement, c'est plutôt les formations de juristes qui étaient très valorisées aux États-Unis, et en France, plutôt les formations d'ingénieurs. Donc on voit aussi comment, selon les sociétés, on accorde des valeurs différentes. Et enfin, je terminerai par dire que, du coup, il y a des dynamiques qui sont propres à chaque société, qui consistent à créer, à un moment donné, de la valeur. C'est-à-dire à accorder de la valeur. Et les professions ne sont pas étrangères à ça, par leur militantisme, par la façon dont elles essaient de revendiquer la valeur qu'elles apportent.
Alors, on va donner la parole à une voisine, Ninel Ayaoundé. Bonjour, Ninel.
Bonjour, Charlie.
On vous écoute. Vous travaillez en freelance, je crois?
Oui, je travaille en freelance. Pas du tout, c'est community manager.
Est-ce que vous pensez que votre métier est utile à la société?
Oui, pour moi, il est utile, mais bon, après, c'est pas le métier nécessaire. C'est pas comme, par exemple, je vais faire un style à ce qu'il y aura moins d'hommes. Donc, c'est utile, mais c'est pas nécessaire. En plus, nous sommes au Cameroun, nous sommes dans un pays bien. Donc, les gens vous font bien comprendre que sans vous, les activités de l'entreprise continueront. Les gens vous font bien comprendre que ce que vous faites, c'est plus nécessaire. Voilà, c'est un peu ça. Et puis tout le monde pense que, une page Facebook, je peux la gérer. Et tout ce qu'il faut faire, c'est poster, répondre aux commentaires. Du coup, c'est pas très...
Alors, voilà. Je suis désolée, Ninel, la ligne est pas très très bonne. Mais donc, pour résumer, ce que vous dites, c'est que malgré tout, vous aimez votre métier, que vous trouvez effectivement que ça a une utilité. Olivier Siran, est-ce que vous voulez réagir?
Oui, moi, pas ce témoignage-là en particulier, mais de manière plus générale, et en particulier en réaction à ce que disait Nicolas Bouzou tout à l'heure, les boulots de merde, c'est pas toujours les boulots des autres, ce sont aussi parfois les nôtres. Je peux en parler en tant que journaliste, le monde de la presse n'est pas épargné par la merdification des métiers. J'espère que ce n'est pas le cas à RFI, mais dans de nombreuses rédactions, les conditions de travail, de précarisation galopante des journalistes se combinent aussi à une détérioration du contenu même du travail fourni, de la qualité de l'information.
C'est assez général, en fait. C'est une âme
voilà,
de fond qui
absolument.
Traverse la société.
Et puis ça concerne aussi les conseillers en management, qui est en réalité le vrai métier de Nicolas Bouzou. Hein. Il est peut-être économiste, mais il est surtout conseiller en management, donc il apporte ses recommandations aux chefs d'entreprise pour que l'organisation du travail soit la plus efficace possible. Donc il contribue lui aussi à la merdification, je dirais, du monde du travail, avec tout le respect que je lui dois.
On arrive à la fin de cette émission. Une dernière question, peut-être un conseil à donner aux voisins et aux voisines qui se sentiraient insatisfaits de leur travail, Olivier Serrand?
Souvent, en fait, c'est en tout cas dans les témoignages que nous avons recueillis pour notre livre, là où les gens retrouvent du sens, en fait, c'est dans la lutte. Les facteurs qui sont en grève en ce moment, les postiers et postières qui sont en grève dans le 92, là, dans les Hauts-de-Seine, depuis mars dernier, le mouvement des postiers dans les Bouches-du-Rhône et ailleurs sont conduits par des gens qui retrouvent du sens à ce qu'ils font parce qu'en fait, ils défendent le sens premier de leur boulot auprès d'une direction qui, au contraire, tente de saboter leur travail. Et donc, c'est à travers la lutte, bien souvent, que le sens se retrouve.
Qu'on peut retrouver le sens. Merci beaucoup, Olivier Siran, Valérie Boussard, d'être venu dans notre studio, donner du sens à cette émission. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare 7 milliards de voisins. Nicolas Benita, Sigrid Azeroual, Yann Leni. Merci également à Inès Edel Garcia et à Didier Chérouz. Et merci, bien sûr, à vous, les voisins, les voisines, pour vos appels, pour vos témoignages, pour votre écoute. Et demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation, comme chaque vendredi. Comment améliorer l'apprentissage des langues à l'école, en France et ailleurs? Les élèves français sont par exemple moins bons en anglais que leurs voisins européens. Comment expliquer ce décalage? Qu'en est-il sur le continent africain? On en parle demain. À demain les voisins.